Zonzon Zef, la radio du coin.
1, 2, 1, 2, bonjour à tous.
C'est toi qui parle.
Arrêtez de me regarder là, je bloque.
Rigolez pas, me regardez pas parce que sinon je vais pas.
Oh, Zonzon Zef, la radio du coin.
Un sens pour les câbles des fois.
Ça c'est fort.
Bonsoir.
Ouais,
non,
mais attends, je vais prendre le micro comme ça. Mais...
Non, bah oui, parce que on va peut-être le refaire sans écho, mais c'est sûr, ça va faire trop d'écho.
Bonjour à tous et bienvenue sur Zonzon Zef, une émission enregistrée à la maison d'arrêt de Blois, en partenariat avec Studio Zef 91.1. Vous pouvez également nous écouter et réécouter cette émission en podcast et sur studiozef.fr. Nous sommes en présence d'une nouvelle équipe aujourd'hui, avec
Moustapha,
Thomas, bonjour à tous,
Monsieur le maire,
Hamza, bonjour la team,
Majid.
En direct de la maison d'arrêt de Blois, comme je disais précédemment.
Et donc le thème de l'émission aujourd'hui, on va parler de citoyenneté et de laïcité. Alors cette émission de radio fait écho à un parcours citoyen qui a été réalisé à la maison d'arrêt.
Exactement.
En partenariat avec le SPIP et la Ligue de l'enseignement. Donc on a eu 6 ateliers au cours desquels on a pu discuter de toutes ces questions-là, avec des présentations, des débats, un jeu interactif, une conférence. Et donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Et puis on a eu aussi l'interview de la 8e adjointe au maire de Blois, Madame Leclerc. Et donc on va vous faire un petit résumé de l'ensemble de ces ateliers.
Avant de commencer ce petit résumé, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table pour bien se présenter chacun son tour. Parce qu'avoir les prénoms c'est bien, mais c'est pas assez je trouve. Du coup, Moustapha.
Je m'appelle Moustapha, j'ai 63 ans, je suis origine de l'Espagne, Madrid, et ça fait un an que je suis ici en maison d'arrêt.
Voilà, moi c'est Thomas, j'ai 41 ans, ça fait 10 mois que je suis en maison d'arrêt, donc privé de liberté depuis 10 mois, mais toujours citoyen.
Mon petit chou.
Moi c'est Idriss, j'ai 25 ans, et ben voilà.
Monsieur le maire.
Là, c'est bien. Là, vous m'entendez tout le monde. Comme je disais, je m'appelle Hamza, 23 ans, d'origine de Casablanca, franco-marocain. Je suis là depuis à peu près, on va dire, un mois et trois semaines. Bah, je vais passer pour vos camarades.
Bonjour, moi c'est M. Majid. Je suis là depuis un an et demi, et puis c'est tout.
Ton âge, s'il te plaît.
25 ans.
juste pour savoir, qui a déjà fait un peu de radio ici ?
Moi.
Qui a déjà participé à une émission de radio ?
Moi.
Ici avec Zonzon Zef, oui. Ou avec une autre radio ?
Avec Zonzon Zef.
C'était sur quoi le sujet ?
C'était sur la mission locale.
Sur la mission locale ?
Oui.
Très bien. Moi aussi, j'ai fait l'activité de radio en deux occasions. On a fait les Restos du Cœur.
Ouais.
Ouais.
Ça s'est bien passé, c'était
ouais,
cool.
Ça t'a très bien passé, oui.
J'ai aussi été initié à la radio par Zonzon Zef. Donc moi, je participais à une émission sur les addictions et en effet aussi les Restos du Cœur. Voilà, je suis ravi d'être là pour cette émission.
Parfait.
Non, moi, c'est nouveau pour moi, c'est la première fois. Donc voilà.
Moi, pareil, c'est nouveau pour moi, c'est la première fois. Et bah, pour aujourd'hui, je suis ravi d'être ici. Je ne vais pas vous mentir.
Eh bien, parfait. Bienvenue à tout le monde. On dirait de Studio Joseph grâce à une activité qui s'est appelée le parcours de citoyenneté grâce à Isabelle et Thibault, organisée par le SPIP et la Ligue de l'enseignement. Et on a la présence de Isabelle et Thibault sur le parcours de citoyenneté. J'aimerais avoir quelques retours de votre part, les gars, vu qu'apparemment on a tous participé ici. J'aimerais bien avoir la vision de Monsieur le maire.
On a parlé de la laïcité, de la citoyenneté, comment fonctionne une ville, les droits des hommes.
Alors pour revenir un petit peu, ouais, il y a eu 6 ateliers au total. Donc le premier atelier, c'était un peu une présentation et un débat entre nous sur les grandes idées que peuvent être la citoyenneté, la liberté, la laïcité. Donc on avait pas mal développé sur ces trois mots-là. Le deuxième atelier, en effet, c'était la réalisation d'un jeu Cité Cap.
Ouais, c'était pas mal.
avec la construction en fait d'une ville idéale, en fait la ville qui nous semble idéale, en utilisant un support qui était mis au sol avec des rivières, un estuaire, et donc on plaçait sur cette carte différents éléments comme l'hôtel de ville, les écoles publiques, les lieux de culte, les commerces,
les centrales d'énergie.
Et donc là on avait désigné en effet un maire pour bâtir cette ville. Et le troisième atelier, c'était la préparation de l'émission de radio. On a préparé en fait un questionnaire pour l'intervenante qui était la huitième adjointe au maire de Blois, dont on a l'interview qui a été réalisée pour la quatrième séance. Et on a également eu un atelier, une conférence de Madame Zuber, qui est professeur universitaire à l'école pratique des hautes études, qui nous a fait un exposé sur la laïcité, son origine et son développement jusqu'à maintenant.
Et qu'est-ce que tu as retenu sur Madame Zuber par rapport à sa conférence ?
Alors, on a évoqué donc la laïcité avec elle. Donc, la laïcité elle peut être considérée comme un principe fondamental, mais aussi une valeur. Donc, je rappelle que pour certains auteurs, la laïcité est qualifiée comme un trésor et un formidable outil de cohésion sociale. En France, la laïcité a émergé à partir de la loi du 9 décembre 1905, qui a défini le cadre général de cette laïcité avec la séparation de l'Église et de l'État. Donc on a fait un petit retour en arrière. Et c'est à partir de la 4e République, donc à partir de 1946, que la laïcité a été inscrite dans la Constitution française.
J'aimerais avoir des opinions de Majid et Mustapha sur ce que vous avez retenu de tout ça, quoi, sur le parcours de citoyenneté, de laïcité, liberté.
Moi, je reste avec un des droits plus importants du citoyen, c'est le droit au vote. Ouais. Moi, toujours, j'ai dit que si tu ne votes pas, tu n'as pas le droit de te plaindre. Alors, j'anime tout le monde pour qu'il participe et il vote. Et voilà.
Et toi, tu as le droit de vote ?
Moi, je n'ai pas le droit de vote. Ni ici, ni en Espagne, j'ai le droit de vote que dans mon pays, le Maroc.
Alors, il faut savoir qu'en prison, a priori, il y avait une abolition des droits civiques jusqu'en 1994. Et c'est à partir du code pénal de 1994 qu'on a mis fin à la privation automatique des droits civiques, donc au droit de vote des prisonniers, sauf si une incapacité électorale a été prononcée à l'encontre des prisonniers. C'était juste une petite info.
Durant ces activités, Mustapha, toi, qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'est-ce qui t'a plu, en fait ?
Moi, ce que j'ai m'a plu de plus, c'est...
C'était la conférence avec Madame Zuber.
La conférence de Madame Zuber et l'invité de...
Madame Leclerc.
Madame Leclerc.
Adjointe à la mairie de Blois.
Oui. Ils ont fait une bonne exposition de ce que ça veut dire la laïcité et le rôle de la élue. La élue, ce qu'il a...
Madame Leclerc.
Oui, comment il applique, par exemple, la laïcité dans la région de Blois.
Et du coup, par rapport à tout ce qu'on a vu durant ces activités, qu'est-ce que vous pensez de la citoyenneté en prison ?
Alors moi, je vais encore faire un peu ouais. L'intello du groupe.
Fais-le, je t'en prie.
Donc moi, j'ai récupéré une situation en fait de Guy Canivet, qui était premier président de la Cour de cassation et qui déclarait en 99 qu'on ne pouvait réinsérer une personne privée de liberté qu'en la traitant comme un citoyen. Alors, est-ce que vous vous sentez traité comme citoyen en prison ou est-ce que vous sentez qu'on n'est plus mis au placard, on n'est plus tellement considéré comme des citoyens à part entière ?
Bah, sincèrement, moi, je trouve que le fait qu'on a commis des erreurs, et puisqu'on a commis des erreurs quand même, on doit un petit peu, en fait, comme on peut dire, on s'est éloigné un petit peu du côté humain de nous-mêmes. Puisque maintenant, c'est par exemple les magistrats et les procureurs de la République, en fait, ils marchent comme quoi ils protègent un petit peu la citoyenneté de nous.
Tu veux dire qu'on n'a pas eu un comportement citoyen
si on se retrouve ici, tant que... Mais je trouve que le fait de d'être ici, c'est un petit peu... On s'éloigne un petit peu de la citoyenneté, puisque humainement, on n'était pas là. Humainement, on n'est pas très géré de nous-mêmes et de nos émotions. On a fait des erreurs, on se retrouve ici, on doit un petit peu, comme je peux dire, comme on a fait du mal à des gens, le mal, il doit retourner un petit peu sur nous. Et je crois que c'est ce qui nous arrive. Et nous ne sommes vraiment pas considérés comme des citoyens en prison. Après, je ne dis pas que c'est mérité. Mais je dis comme quoi, on s'éloigne de tout le monde, on s'éloigne de la vie en public.
On est mis de côté et on se met aussi soi-même de côté du fait des actes qu'on a fait.
Oui.
Non, mais déjà, pour se retrouver ici, déjà, c'est qu'on a été mis de côté de nous-mêmes, déjà, à la base. Tu fais une bêtise, c'est toi-même qui fais la bêtise. C'est pas quelqu'un ou l'État ou un organisme qui te fait faire la bêtise. C'est toi qui fais la bêtise, t'es conscient. T'arrives ici, en gros, tu payes et t'assumes. Après, je pense que plus t'arrives vers la fin de ta peine, en fait, plus tu commences à retrouver un semblant de droit de citoyen, parce qu'ils essaient de te, soi-disant, réinsérer dans la vie de tous les jours. Donc tu recommences à sortir, à voir du monde dehors, à pouvoir faire des démarches administratives, faire tes CV, pas les CV pour pouvoir chercher un travail ou quoi. Donc petit à petit, ils te remènent pour que tu puisses te réintégrer, on va dire. Mais après, la citoyenneté en prison, on en est très loin.
Sincèrement,
tu peux pas être un citoyen et un détenu, c'est pas possible.
C'est pas trop logique d'ailleurs. Puisque déjà, le procureur de la République, les magistrats, quand ils demandent une peine, c'est pour t'éloigner des citoyens, pour que tu puisses pas
c'est
faire
ça.
Du mal à des citoyens. Du coup, c'est pour moi, la réponse est bien claire, que nous ne sommes pas des citoyens tant que nous sommes un petit peu dans le placard.
Moi, je vois que je suis un citoyen, mais derrière les barreaux. Et, la liberté est limitée. Et parfois, même les droits, ils sont un petit peu limités. Alors pour purger ta peine, t'es un citoyen, mais toujours derrière les barreaux.
Entre nous, quoi. On est des citoyens, mais plus qu'entre nous, parce qu'on n'a toujours pas un contact direct ou indirect avec tout ce qui se passe dehors,
c'est
à
ça.
Part la famille. Puisque entre nous, nous sommes des citoyens, mais on peut dire entre nous, nous sommes des détenus.
Après, même les amendes et tout ça, on reçoit. Moi, j'ai reçu des amendes là, de dehors.
Ah, mais ça.
Donc, la citoyenneté te rattrape.
T'inquiète pas.
Quand t'es mis au.
Bah voilà, donc on est des citoyens.
Comme on dit, il n'y a que deux choses qui sont sûres dans la vie, la mort et les impôts. T'inquiète pas, ils vont.
Alors pourtant, c'est vrai qu'en prison, donc on a vu qu'on avait le droit de vote pour la plupart, voire la majorité, sauf si une incapacité électorale a été prononcée. Est-ce que d'avoir le droit de vote, ça suffit à dire qu'on reste citoyen en prison? C'est un peu une vaste question.
Non, c'est pas parce qu'ils nous octroient quelques droits et quelques devoirs que non. C'est soit on est citoyen, soit on l'est pas. C'est pas parce qu'on a le droit de vote que non. On a le droit de vote, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc non.
D'ailleurs, moi je trouve qu'il y a énormément de personnes qui ont le droit de vote, par exemple en cas de liberté, mais ils votent jamais. Mais est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est ceux qui votent jamais alors qu'ils peuvent voter, c'est...
Ouais.
C'est des citoyens aussi.
On est en prison, on a le droit de vote, ils sont libres, mais ils ont le droit de vote, mais ils votent pas. Pour moi, c'est le droit de vote, c'est pas un critère. C'est un droit ou un devoir, je sais pas comment voir ça. C'est un droit ou un devoir que si tu veux, t'appliques. Après,
un devoir au sens humain, quoi.
Ouais.
Un devoir humainement, c'est un devoir.
Ouais, après,
mais au sens.
Par contre, après, bien sûr, si tu votes pas, va pas te plaindre, comme disait Mustapha. T'as pas voté, te plains pas que le président il te plaît pas, que le maire te plaît pas, que le député...
Comme disent les Anglais, don't cry when you choice.
Alors, sur tout ce qui est la citoyenneté, les gars, j'aimerais savoir pour vous quel est le droit le plus important pour vous.
Pour moi, le droit le plus important, à part le droit de vote, c'est le droit de l'éducation et l'enseignement. Il faut bien préparer les futures générations.
Ouais.
Voilà.
Éducation et renseignement. Et toi, Thomas?
Alors parmi les différents droits, donc en effet il y a le droit de vote, il y a le droit à l'éducation, il y a le droit au logement et puis aussi le droit au travail. Il y en a peut-être sûrement d'autres mais qui ne me viennent pas spontanément en tête. Alors à savoir que tout citoyen en France normalement a droit à un travail. Donc normalement tout citoyen devrait pouvoir
travailler.
Avoir accès à un travail, ça c'est dans la Constitution. Moi, ça me semble être un des droits les plus fondamentaux, parce qu'après, quand on a le travail, on dispose de la liberté de faire nos choix en conséquence. Voilà.
Monsieur le maire.
Bah alors moi, je vais rejoindre Mustapha et Thomas, c'est ça. Mais aussi, je dirais aussi le vote aussi, c'est important. Le vote, le droit de vote.
Et tu l'exerces, toi, le droit de vote ?
Oui, bien sûr.
Et pourquoi ?
Bah, c'est-à-dire, je vote,
ouais.
Je...
Ouais, mais pourquoi tu vas voter ?
Bah oui, parce que... voilà, pour avoir, pour choisir un président que, voilà, que j'aimerais avoir pour ce pays-là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et le travail aussi, c'est important pour faire tourner... Donc
pour toi, c'est important, ouais, de faire entendre sa voix et,
voilà.
Et chaque voix compte.
Oui, voilà, c'est ça. Avec le travail aussi, faire tourner l'économie, puis voilà.
Hamza, dis-moi tout.
Moi, je suis bien d'accord avec mes camarades. Sauf qu'on n'a pas parlé un petit peu de l'intégration des deux côtés. On doit s'intégrer aux droits du pays. Comme il y a fort chance qu'il y a des gens qui sont pas de la même, on peut dire un peu, ouais, de la même culture, de la même vision de voir les choses.
Mais du coup, vu que c'est pas la même culture et qu'il vient de s'intégrer, tu penses que les lois doivent changer ou c'est plutôt aux gens de s'intégrer à la citoyenneté, comment elle est...
Moi, je dis des deux côtés.
Elle a été créée ici.
Moi, clairement, je dis des deux côtés. On doit vraiment s'intégrer des deux côtés. Que les gens, ils font l'effort.
Tu veux dire qu'il y a un effort d'acceptation à... Faut qu'un effort d'acceptation soit fait de la part de ceux qui reçoivent et en même temps un effort aussi de ceux qui arrivent pour pouvoir...
C'est juste que le délire de citoyenneté, de droit et tout ça fait qu'un citoyen... On est tous des citoyens du monde, comme on dit à la base. Sauf qu'après, il y a des pays qui ont leur culture, leurs lois, et il faut s'adapter à ces pays-là. C'est-à-dire que tu as droit d'avoir un comportement de citoyen en France que si tu vas dans un autre pays, t'es pas citoyen, c'est pas... T'as pas vraiment le même droit, on va dire, en gros. Comme par exemple, comme toi tu dis que t'étais en Angleterre, curb crawling, c'est une loi là-bas qu'ils ont que nous en France on n'a pas, alors que c'est une loi de citoyen en fait. C'est-à-dire c'est tout simplement un automobiliste n'a pas le droit de parler à un piéton. C'était pour protéger les femmes à la base, ça. C'est-à-dire la femme elle est piéton, toi t'es en voiture, t'as pas le droit de parler à une femme qui est sur le trottoir. Ouais.
Ça s'appelle interdiction car.
Voilà, tu vois, pour
ça
dire.
S'appelle interdiction car.
Et en France on l'a pas cette loi.
Oui, bien sûr.
On l'a
pas. En plus, ils ont même un moment cherché à... Par exemple, dans les taxis, dans les vitres derrière, vous pouvez pas les...
Ouais,
les
on peut pas se parler.
On peut pas se parler puisque c'est interdit ou pas de parler aux piétons.
Tu vois, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que tu changes de pays tout en restant en Europe, tout en restant dans la même culture, on va dire à peu près. Tu changes de pays. Il y a des lois qui font que nous, on l'a.
C'est pour ça, en fait, ça change.
Selon le pays, en fait, on est obligé de s'adapter à eux. Mais après,
la loi Anti-Addiction Car, ça n'a rien à voir avec la laïcité.
Non, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Non, ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est juste un exemple pour dire qu'une loi qui est banale, en fait, que nous ici, ce n'est pas une interdiction, mais que pour eux, là-bas, c'est une interdiction. C'est un délit, car moi, c'est même pas une interdiction, c'est un délit.
On oublie le respect.
Le droit au respect.
On oublie ça de dire.
C'est-à-dire ?
Le droit au respect.
C'est un droit le respect ou c'est un devoir ?
Le droit de penser. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut.
Être respectueux chacun envers l'autre.
Voilà.
C'est un droit ou un devoir ?
Les deux. Les deux. Tu dois respecter les gens et tu dois... Les deux en fait.
Le droit au respect. Oui, le droit il doit être mutuel. Ouais. Moi, j'ai été éduqué de cette façon-là dans le Maroc. Alors nous, on partage avec les
voisins. Dans les années 40
Presque, ouais.
Je rigole. Dans les années 40.
On partage.
Je rigole.
Ouais, on partage.
Non, mais on ne peut pas mentir, même au Maroc. Maintenant, c'est trop loin pour ça.
C'est différent, même. Ça dépend. Ça dépend des régions. Écoute, ce n'est pas la même chose que tu habites dans une ville, que tu habites dans un petit village, que tout le monde se connaît. Et ça dépend du taux de sécurité, parce que maintenant tout le monde a peur. Tu ne peux pas ouvrir ta porte à n'importe qui. Il y a toujours de la peur.
Et vous croyez que ça, c'est à cause de quoi ? Moi, je dis ça un petit peu à cause des médias, mais vous pensez que c'est à cause de quoi ?
Parce que les gens, avec le temps, ils ont changé de mentalité, ils ont changé d'attitude.
Pour laquelle des raisons ?
La raison, ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, ce qu'ils voient dans les journaux, tout est dramatique, il n'y a pas de sécurité. C'est à cause de ça, mais avant, tu n'étais pas comme ça. Vraiment.
La peur de l'inconnu.
On était plus humain, je m'en vois, plus humain. pas égoïste comme maintenant.
Après ces débats, plein d'idées très intéressantes, nous avons une suggestion de monsieur le maire, alias Driss, pour une pause musicale avec Ouah Renoir pour écouter Pétunia.
C'est Ouah Renoir, Pétunia, c'est un rappeur que j'aime bien. Donc, voilà. Ah, il parle de sa vie, quoi. Voilà. Il parle de sa vie, de tout ça.
Je suis plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je parle sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille. J'suis plus des logs de RS3. J'écoute plus ce qui se dit sur moi. J'compte plus les haters. J'pense qu'il y en a 3 millions. Et combien de jaloux je vais faire avec 3 millions. C'est souvent ceux que t'apprécies qui veulent te monter dessus. Donc j'suis devenu très mauvais par peur d'être déçu. J'regarde pas les streams, j'regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Je suis l'homme à abattre, ils font les trafiquants. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps à patte. Je suis plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je perds le sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille. Je suis plus des langues de RS3. J'écoute plus ce qui se dit sur moi. Sans mort dans le film. Oh là là, je vois plus toutes les fins du mois. Vu ce que je fais rentrer à l'année. Ils sont morts dans le film. Oh là là, je suis pas là pour me jeter des flammes. Ils sont morts dans les pétunias. À part dans les troncs de bœufs, j'ai pas pris la grosse tête. J'ai pris la plus grosse bête, je suis dans la plus grosse fête. Trop de succès, attire les plus gros traits. Je les fais disparaître et je prends un billet fast track. On n'a pas perdu le nord, mais on regarde plus derrière. Des disquettes d'or qui pleuvent, j'en ai déjà fait deux depuis la semaine dernière. De dimanche à dimanche, tout à fait hallucinant. Ils t'aiment seulement quand ils mangent. J'ai l'ingrat, ne retiens que quand tu dis non. Donc, je regarde pas les streams, je regarde pas les ventes. Mais je sais que j'ai fait plus que la veille et qu'il y a plus de zéro sur la feuille. Je suis l'homme à abattre, ils font les trafiquants. Ton rappeur parle de la RUE, mais il est tout le temps à battre. Je suis plus très loin du soleil, jamais très loin de la côte. Je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je perds le sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille. Je suis plus des logs de RS3. J'écoute plus ce qui se dit sur moi. Sans mort dans le film. Oh là là, je vois plus toutes les fins du mois. Vu ce que je fais rentrer à l'année. Ils sont morts dans le film. Oh là là, je suis pas là pour me jeter des fermes. Ils sont morts dans les pétunias.
Eh bien, merci à vous, les gars. C'était très instructif. Dès à présent, nous allons écouter un enregistrement que nous avons effectué avec Madame Christelle Leclerc, qui est 8e adjointe au maire de Blois, qui est dédiée à l'intégration républicaine, à l'égalité, aux droits des femmes et à la mémoire, et encore plus. Vous allez entendre ça incessamment sous peu.
Excusez-moi, elle est enseignante, je crois qu'elle est encore enseignante.
Oui, ça, elle a trop de choses. Une femme engagée, en tout cas.
En direct de Studio Zef, on se retrouve aujourd'hui en rendez-vous avec Madame Christelle Leclerc pour lui poser quelques questions par rapport aux droits et les devoirs du citoyen. Madame Christelle Leclerc.
Bonjour.
Bonjour. Nous sommes aussi accompagnés de donc Mustapha, Thomas, Lucas, Dakhna et Majib.
Bonjour à tous. Donc l'interview de Christelle Leclerc, je crois, s'inscrit dans un parcours citoyen qui a eu lieu à la maison d'arrêt. Donc on a réalisé plusieurs ateliers pour parler de laïcité, citoyenneté, de liberté. Et donc on vous reçoit aujourd'hui. Merci de votre présence. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui, merci de votre accueil surtout. Moi, je suis effectivement Christelle Leclerc, adjointe au maire à la ville de Blois. Ma délégation d'adjointe, c'est intégration républicaine, égalité, droits des femmes, laïcité et mémoire.
La liste est longue.
Voilà. Par ailleurs, je suis aussi enseignante, directrice d'une école maternelle avec une classe à Blois, à l'école maternelle Charcot.
Ok.
Quelle est votre mission de la citoyenneté ?
Alors, effectivement, ce n'est pas une mission directe au sens où moi, je n'ai pas d'action directe, mais justement, comme aujourd'hui, je m'appuie sur les structures associatives, la Ligue de l'enseignement, Studio ZEF. Je travaille aussi avec une association qui s'appelle Les Rendez-vous de l'Histoire, avec plein de partenaires qui, effectivement, œuvrent pour parler de citoyenneté. On pourra peut-être donner une forme de définition tout à l'heure, je suppose, et pour rencontrer des gens qui ont besoin d'éclaircissement ou pour mener de temps à autre des actions comme des conférences autour de la journée du 9 décembre qui est la journée de la laïcité en France.
Et à part le 9 décembre, est-ce que vous avez mis en place pour le 9 décembre, est-ce que vous avez d'autres moyens pour faire passer vos messages ou pas ?
Alors, il n'y a pas que le 9 décembre, ça c'est le jour effectivement phare, mais on essaie d'avoir des actions. Il y a eu, par exemple, cette année, une conférence en novembre. Il y a eu d'autres actions dans la période qui a précédé le 9 décembre. Aujourd'hui, on est en train de travailler et d'enregistrer. Tout ne se fait pas que le 9 décembre. On a des actions avec des petits moments réguliers tout au long de l'année.
Donc pour rappel, hein, le 9 décembre, c'est le 9 décembre 1905. C'est une date anniversaire. Donc c'était la loi qui a permis d'établir le cadre de la laïcité en France, avec notamment une séparation de l'Église et de l'État.
Des Églises et de l'État.
Des Églises et de l'État.
Enfin, ça veut dire des religions. C'est ça, quand on dit l'Église, c'est pas l'Église. C'est les religions n'ont plus à voir avec l'État. Chacun gère sa partie.
Les Églises avec un grand E, alors.
Exactement. Les cultes.
La laïcité à Blois, comment ça se passe, le lien entre mairie et les centres religieux ?
Alors, effectivement, dans le cadre de cette délégation-là, y compris aussi tout ce qui va être autour de l'intégration républicaine, je suis en lien avec les différents lieux de culte. Donc à Blois, par exemple, au niveau de la religion catholique, je suis en lien régulier avec l'évêché. On vient de recevoir un nouvel évêque là depuis cette année. Je suis en lien avec les quatre mosquées, puisqu'il y a quatre mosquées où je vais régulièrement pour différents échanges. On prépare ensemble les festivités au moment avant le ramadan. J'y vais dîner plusieurs fois pendant les repas d'iftar, au niveau des ruptures de jeûne. On prépare l'Aïd aussi, la fête du mouton, etc. Je suis en lien avec les églises évangélistes aussi. Et actuellement, je travaille aussi avec la communauté juive qui n'a pas de lieu de culte à Blois, mais qu'il y a des gens de culte juif à Blois et on travaille ensemble pour voir comment leur faciliter l'accès à des lieux qui permettent de faire leur culte quand ils en ont besoin.
D'accord, merci.
Voilà.
Super. Quelles sont vos idées politiques ? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour les Blaisois ?
Alors, les idées politiques, moi, je ne suis pas encartée, c'est-à-dire que je n'ai pas une carte dans un parti, quel que soit le nom du parti, du parti politique. Non, mes idées sont plus, effectivement, quand même, mon cœur est à gauche, dans le volet un peu social, dans le volet culture, dans le volet les gens sont tous des humains et on vit tous ensemble. Voilà comment, moi, je vois la relation à l'autre, donc voilà comment sont mes idées politiques. Mais je ne suis pas encartée officiellement avec une carte, parce que je préfère garder une forme de liberté de pensée. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vraiment mes idées sont du côté gauche, là où le cœur bat. Qu'est-ce qui est à faire pour les Blaisois ? Alors, après, ça va dépendre de quel sujet vous voulez parler. Qu'est-ce qui est à faire dans quel domaine ? Ça peut être très, très large. Est-ce que l'on parle juste de ce qui va être à faire dans l'idée d'être tous des citoyens ? Si c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire parce qu'il y a des gens qui se sentent extrêmement éloignés de la citoyenneté, c'est-à-dire de vivre en tant que personne humaine et responsable et engagée sur le territoire. Je pense que chaque personne a sa place, son mot à dire et la possibilité d'échanger, d'expliquer sa façon de vivre et de vivre et de voir la vie. Et si on peut avoir la parole de chacun autour d'une table comme on est en train de le faire aujourd'hui, beaucoup de choses iront mieux.
Donc pour vous, c'est quoi votre vision de la citoyenneté ?
Ma vision de la citoyenneté, je ne sais pas si c'est ma vision, je pense qu'être un citoyen, c'est participer de la ville, de la vie de la ville, si on parle pour la ville, puisque moi j'habite dans une ville. Auparavant, j'habitais un village il y a très longtemps, et je pense que c'est que chacun a le droit d'avoir sa place et de prendre sa place dans le respect de l'autre, toujours. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes droits, c'est égalité, fraternité, liberté, ça c'est, ce sont les devises de la France. Et si on arrive à se les approprier vraiment, moi je me sens extrêmement libre, extrêmement égale aux autres, et fraternelle, ou la sororité pour les femmes, parce que fraternité ça fait très homme, donc j'aime bien aussi utiliser sororité, qui parle de l'équité entre les hommes et les femmes. Je pense qu'être citoyen, c'est être sur un plan d'égalité, et se donner les moyens de travailler tous ensemble pour vivre bien ensemble. Quelles que soient nos façons de penser, nos religions, nos convictions diverses et variées, quels que soient nos bords politiques, quelle que soit notre façon d'envisager la sexualité, on peut être homosexuel ou pas. Voilà. Pour moi, on est tous des humains équitables et on fait citoyenneté, on fait cité, on fait vie ensemble. J'espère que j'étais claire.
Et donc la laïcité peut être un outil justement pour...
Alors voilà, exactement. Je pense que c'est une immense chance en France d'être un pays laïque et d'avoir la laïcité comme un principe. Alors ce n'est pas une valeur, puisqu'il y a les valeurs de la République qui sont officielles, mais la laïcité c'est un principe, c'est-à-dire que c'est quelque chose...
On avait fait débat entre nous et c'est vrai qu'on avait conclu que c'était à la fois un principe et une valeur.
Ah d'accord, un principe c'est quelque chose qui est construit, la laïcité c'est quelque chose qui est construit, alors qu'une valeur c'est quelque chose qui est plutôt... on va dire pensée innée, enfin voilà, plus dans un domaine comme ça, alors que la laïcité c'est vraiment quelque chose qui a été construit, c'est pour ça que c'est plus un principe. Pour moi la laïcité c'est une super super chance d'avoir le droit de penser, de vivre comme on le souhaite dans le moment où on respecte tous les autres. On a cette chance de pouvoir vivre comme on le souhaite, avec les convictions que l'on a, les façons de voir la vie comme on le veut, du moment qu'on respecte les autres. Pour moi, c'est vraiment la chance extrême d'être dans un pays laïque.
Excusez-moi, dans ce cas-là, ça veut dire que la laïcité elle nous donne plus d'avantages pour la liberté d'expression ?
Bien sûr, exactement. À partir du moment où on est dans le respect, on a le droit de tout dire, sauf si on va pour insulter quelqu'un. On n'est pas là pour agresser les gens, on n'est pas là pour descendre les gens, les abîmer, les brutaliser. On est là, si on est dans la liberté d'expression, c'est dire ce que l'on pense sans pour autant blesser les autres. C'est ça la laïcité.
Est-ce que vous pensez que sur Blois, il y a un problème de laïcité ou pas ?
Je pense que les gens ont peur de la laïcité, à Blois comme ailleurs.
Et pourquoi ?
Parce que les gens le voient comme quelque chose qui est contre les religions. Voilà. Alors que ce n'est pas du tout contre les religions, c'est pour avoir la permission que chacun vive ce qu'il souhaite comme religion ou comme façon de vivre, quelle qu'elle soit. Et malheureusement, c'est pas que à Blois, c'est un peu partout en France, les gens ont peur de la laïcité parce qu'ils le considèrent comme quelque chose qui est contre. Alors que la laïcité, c'est un principe qui permet d'être pour, mais pour tout.
Mais par rapport à votre rôle d'élu, à quel niveau vous pouvez intervenir dans tout ça, bon, on va rester focus sur la laïcité. Autant qu'élu, qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait, pour nous aider, on va dire, à, pas que nous, mais vraiment que le peuple, on va dire, il accepte mieux.
Parce qu'il y a des grandes idées du gouvernement, c'est ça? Et puis, comment c'est réparti après sur les villes?
Alors, effectivement, il y a les idées du gouvernement. Le gouvernement pose la loi et le cadre. Après, on a quand même chacun dans sa ville des marges de manœuvre qui nous permettent de fonctionner à partir du moment où on reste dans le cadre de la loi. Bon. Moi, je ne suis qu'une petite élue d'une petite ville, donc je n'ai pas beaucoup, beaucoup de pouvoir pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Je réponds à toutes les sollicitations. Quand je peux aller parler de laïcité, quand je suis sollicitée pour aller dans n'importe quel lieu de culte, quel que soit le culte, j'y vais parce que je trouve que l'échange est extrêmement important. Donc, à part être là, présente sur le terrain, en réponse aux gens, dans mon travail aussi, puisque moi je travaille dans une école dans les quartiers nord de Blois, et je suis en contact perpétuellement avec plein de gens de plein d'origines différentes, de plein de pays, de plein de lieux. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges sur la façon de voir la vie, sur même des fois comment faire la cuisine, mais toutes les relations entre les gens, quel que soit le sujet, ça permet de diffuser une parole d'apaisement, de compréhension. Ça évite que les gens se sentent en danger ou en défiance. Moi, j'ai confiance dans les gens. Enfin, voilà, à base, j'ai plutôt confiance dans les gens. Et quand on est dans un échange fluide, bah après, la confiance, elle est là. On n'a plus raison de se faire du mal ou de s'embêter les uns les autres, quoi.
Vous ne pensez pas que par rapport à la laïcité, ça serait mieux de... Après, je trouve ça bizarre de dire ça, mais de mettre des vraies règles.
Mais elles existent.
Mais pourquoi on n'entend jamais parler du coup ?
Ben, y a des cadres de loi qui empêchent par exemple certaines paroles ou qui favorisent d'autres. Des cadres de loi qui empêchent aussi, par exemple dans les établissements scolaires ou dans les lieux représentant la ville ou l'État, d'avoir des objets de culte trop visibles. Parce que le culte, c'est un peu comme son histoire personnelle sexuelle. C'est, chacun a son histoire. Hein. Voilà, on ne sait pas ce que les gens font dans leur chambre. Et ben, on ne sait pas ce que les gens font dans leur culte. Donc, voilà, ces cadres-là sont posés, ils existent. Mais après, il y a beaucoup de défiance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La laïcité, elle est considérée comme quelque chose qui est une menace. Donc, les gens vont aller faire tout pour aller contre la laïcité. Alors qu'en fait, il suffit juste de la prendre comme elle est. Enfin, c'est un beau fruit, un beau gâteau, une belle plante. Il faut la prendre telle qu'elle est sans avoir peur de ça. Et si on n'en a pas peur, ben, on n'a même pas besoin de se battre et porter des croix de plus en plus grosses ou des foulards de plus en plus grands.
Ah, mais ça, c'est à cause des représentants de ce pays qui font que... Pour moi, personnellement, j'ai l'impression que la laïcité, ils sont en train de la faire évoluer contre une certaine religion. Les musulmans, bien sûr. Pourtant, je ne suis pas musulman, je vois vraiment ça d'un œil extérieur. Avec l'exemple, par exemple, du voile dans le sport. C'est pour les femmes, le voile dans le sport. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent interdire ça. Ils disent que c'est un signe religieux. Alors que je suis un fan de foot. La plupart des footeux, quand ils rentrent sur un terrain, ils font tous le signe de la croix. Donc, c'est-à-dire que si on interdit le voile, on doit interdire aussi les signes de croix sur le terrain de foot.
Oui, je comprends ce que vous dites, effectivement. Après, ce sont des choix qui sont posés. Moi, je ne suis pas à l'origine des choix qui sont posés par le gouvernement. Après, il y a des choses que l'on fait tous.
Évoluer du mauvais côté à chaque fois.
Il est probable que ça soit un peu stigmatisant, effectivement. Je sais que moi, dans mon école, je reçois beaucoup de mamans qui interviennent. Je reçois beaucoup de mamans qui interviennent dans notre école, qui ont le voile. Il y a une limite, normalement, si elles interviennent en tant qu'enseignantes ou co-enseignantes, on doit leur demander d'enlever le voile. Si elles interviennent juste pour encadrer les enfants, on ne leur demande pas d'enlever le voile. Moi, je ne demande jamais qu'elles enlèvent le voile parce que c'est leur histoire. Bon, voilà, ça ne me dérange pas particulièrement. Je préfère avoir des mamans investies et qui sont en grande proximité avec nous dans l'école.
Ça doit être le principal, normalement.
Plutôt que de bloquer les gens. Maintenant, si ce sont des agents qui travaillent pour la ville, là, je sais
là,
que
autre chose,
je vais leur demander d'enlever leur voile quand elles travaillent. Oui, c'est ça.
Est-ce que vous pensez que la laïcité poussée à son paroxysme en fait pourrait être une atteinte à la liberté culturelle de certaines personnes ?
Alors j'ai du mal à entendre ça parce que pour moi la laïcité ça permet les libertés. C'est ça mon idée, enfin ma conception des choses, c'est plutôt qu'elle permet à chacun de vivre comme il veut. Après le problème c'est qu'on est vraiment dans cette défiance, c'est-à-dire que certains vont faire les choses, arborer des objets de culte les plus gros possibles pour provoquer presque. Mais je ne parle pas forcément que des musulmans. Hein. Je vous parlais de croix tout à l'heure. Il y a certaines gamines que je vois des fois avec d'énormes croix, des boucles d'oreilles avec des croix. À un moment, j'ai envie de leur dire, les filles, à quoi vous jouez quoi. On n'est pas... Il y a beaucoup de provocations et de défiance.
Il faut trouver en fait le bon dosage.
On est tout à fait là-dedans. Ça veut dire que ça fait appel à l'intelligence. Et je pense que si chacun se pose tranquillement, à un moment, on est tous intelligents ensemble.
Mais je pense qu'aussi, il faudrait apprendre la laïcité aux plus jeunes dès le départ.
Alors, c'est fait dans les écoles. C'est fait dans les écoles
ouais. Mais le problème, c'est que ce n'est pas assez appliqué. L'exemple tout concret du rabbin à Orléans...
Qui s'est fait poignarder.
Qui s'est fait agresser, pas poignarder, agresser. Agressé, mordu devant son fils. Moi qui suis originaire d'Orléans, je sais qu'il y a un énorme problème là-dessus. Honnêtement, tout le monde ne se balade pas ensemble, qui viennent d'un culte ou d'un autre. Je pense que le problème sur la laïcité, c'est qu'il faudrait que ce soit plus instruit dès le plus jeune âge, avec les bonnes paroles, et savoir accepter le culte de chacun.
Alors ça, c'est une réalité. De toute façon, c'est fait dans les écoles. Maintenant, les écoles... Enfin, moi, je suis dans une école maternelle, donc c'est...
C'est compliqué.
On en parle, mais de façon beaucoup plus simple. On en parle juste de... On est tous copains. On parle avec des mots très simples hein, pour les plus petits. Par contre, je discute régulièrement avec mes collègues qui sont en école élémentaire ou qui sont au collège. Donc, ils font beaucoup d'enseignements là-dessus. Maintenant, malheureusement, on a des religieux, quelles que soient les religions, qui, le mercredi ou le soir, quand les enfants vont au cours de religion, cassent tout ce qui a été fait dans les écoles. Et même sur certaines choses, moi, je me suis déjà retrouvée confrontée dans certaines religions où j'étais allée voir des religieux, puis on discutait. Moi, je disais, voilà, la science, on apprend ça à l'école pour faire pousser des plantes. On fait des petites plantations et puis on arrose, on en discute. Et le monsieur me dit, mais non, mais c'est Dieu qui fait pousser les plantes. Alors, je lui dis, peut-être que dans votre religion, vous pensez ça dans la religion, mais concrètement, s'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de nutriments pour la plante, elle ne va pas pousser. Et le monsieur insistait là-dessus. Et ce qui fait qu'on se retrouve face à deux visions des choses qui sont difficiles à mettre en face et qui font que certains élèves, quand ils reviennent à l'école, en ayant entendu ce genre de discours, eh bien, ils ne croient plus les enseignants. Parce que les enseignants, ils ont eu leur enseignement brisé, dénigré, réduit à rien du tout par des religieux. Et ça, c'est très ennuyeux. Je vous donne un exemple personnel, très personnel. Quand j'étais petite, mes parents sont d'origine bretonne, donc très catholiques. Et donc en CE1, je crois, 7 ans, j'allais au cathé. Catéchisme, c'est l'enseignement religieux catholique. Et puis, à l'école, on était en train de parler des hommes préhistoriques avec la maîtresse. Super, je trouvais ça passionnant. J'arrive au cathé et là, on nous dit Adam et Ève, premiers hommes. Et je rentre à la maison, je me dis, mais il y en a un des deux qui ment. Soit la maîtresse, elle nous mitonne complètement avec ces hommes préhistoriques, 7 ans, hein, on réfléchit pas très loin, soit la dame qui nous fait le cathé nous mitonne complètement avec Adam et Ève. Je pose la question à ma mère, à table, et ma mère, elle est mais perdue. Je vois son regard complètement, parce qu'elle est très religieuse, mais elle sait que la science ou l'histoire, c'est quand même vrai que les hommes... Et là, elle me dit, ah bah tu sais ma chérie, je sais pas trop quoi te répondre. Elle était très très embarrassée. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est dingue, ma mère, elle ne sait pas. Elle ne peut pas me répondre. Et je me suis dit, mais est-ce qu'elle est bête, ma mère, ou quoi? Vous imaginez dans la tête d'une petite fille, quand elle se retrouve dans un conflit comme ça?
Et j'en reviens à la question que je vous ai posée tout à l'heure.
Je trouve ça très triste qu'il n'y ait pas un discours qui puisse être harmonisé. Et on sait que les hommes préhistoriques étaient les premiers hommes. Mais après, dans les légendes du culte, il peut y avoir une autre histoire. Il faut juste comprendre que c'est une légende d'un culte. Et dans d'autres légendes, d'autres cultes, il y a certainement, je ne connais pas des autres cultes parce que je n'ai pas été... Alors maintenant, je ne suis plus du tout catholique parce que ça m'a tellement énervé tous ces mensonges que je ne suis plus du tout religieuse. Mais je pense que c'est important pour certaines personnes d'avoir un appui d'une religion qui peut permettre de se sentir accompagné, soutenu, réconforté, parce que c'est aussi une forme de réconfort. Donc on se construit une légende commune, une histoire commune qui n'est pas la vraie histoire technique des hommes préhistoriques ou de la science qui fait pousser, enfin de l'eau qui fait pousser les plantes. Mais on se construit une légende commune qui nous dit que Dieu nous aide à faire tout ça. Très bien. Moi, je respecte ça. Mais moi, je peux croire, par exemple, qu'on va... si on est... Voilà, je peux imaginer que je peux croire que si je fais des bonnes actions dans ma vie actuelle, je serai réincarnée dans quelque chose de mieux, peut-être. Des gens croient ça. Pourquoi pas? Si ça permet de bien vivre pendant qu'on vit. Et si avoir un culte nous permet de bien vivre pendant qu'on vit, du moment qu'on respecte les autres, ça ne me pose aucun problème. Mais il ne faut pas être en défiance des choses qui sont réelles. Les hommes préhistoriques étaient les premiers hommes et les plantes poussent grâce à l'eau et aux nutriments et au soleil.
Non, moi je trouve qu'il faudrait aller encore plus loin que ça. C'est pas vraiment enseigné, parce que déjà au collège, c'est comme elle a dit Madame Leclerc, au collège déjà, grâce à l'histoire, on voit la religion islamique, on les voit tous déjà au collège, on les voit tous. Mais moi j'ai une question par rapport à ça, ça serait, est-ce que ça pourrait pas aider par exemple, parce qu'on a fait on a fait un jeu, ça s'appelait Cité Cap, on a essayé de construire une ville. Et par rapport à ça, je voulais savoir si ça serait pas plus intéressant, genre, qu'on puisse mettre tous les lieux de culte dans le même endroit. Comme ça, tout le monde se fréquente, en fait, tout simplement. Tout le monde se voit. Après, tout le monde va prier à son heure de prière, mais quand ça ressort, ben, tout le monde est encore ensemble.
Dans le même bâtiment, vous voulez dire, ou...
Pas spécialement dans le même bâtiment, mais on va dire dans le même endroit. Parce que quand on voit que
l'église est au centre du village... Faire une place et tout le monde est autour d'une place, voilà, par exemple. Ça. Ce serait assez idéal.
Ça serait plus déjà... Moi, je pense que ça serait déjà un premier pas, déjà, pour...
Ce serait assez idéal. Après, ça veut dire qu'il faudrait construire une ville, parce qu'on ne va pas raser une ville pour la reconstruire.
Il n'y a pas besoin de raser, mais quand déjà on voit dans le centre-ville, c'est rempli de fast-food, déjà d'une, on peut prendre des fast-food, on les casse et on fait un secteur comme ça. Comme à Blois, à la place Ave Maria, par exemple.
Place Ave Maria, oui.
Déjà là, on pourrait faire un sort de culte ou quoi. Là,
alors, le problème, c'est que les bâtiments sont privés. Appartiennent à des gens. Si imaginez que vous avez une maison, on vous dit bon bah on va vous la prendre, on va la casser et puis on va faire un lieu de culte. Mais vous seriez pas très content qu'on vous prenne votre maison. Après, une chose aussi à savoir, c'est que les lieux de culte n'appartiennent pas à la mairie ou à l'État. Enfin,
oui, on a compris.
Vous avez, ouais, c'est ça.
Enfin, ceux qui étaient. C'est les centres culturels qui.
Avant 1905, les églises, elles étaient effectivement. Les bâtiments qui ont été construits avant 1905 restent la propriété des villes. de l'État.
Des villes ou de l'État.
Voilà. Parce que c'est une négociation qui avait été faite au moment de la loi de 1905. Alors, il n'y avait que le culte catholique à l'époque, donc il n'y en avait pas 36. Les propriétaires des églises disaient, oh, mais attendez, s'il faut qu'on entretienne tout, etc. Nous, en gros, ils ont accepté qu'il y ait la séparation des églises, des cultes et de l'État, mais à condition que leurs bâtiments soient pris en charge pour l'entretien. Et tous les bâtiments religieux, quelle que soit la religion, qui ont été construits après 1905, étaient faits par des associations, des cultes privés, enfin voilà. Mais tout ce qui est avant, donc par exemple à Blois, ben on est obligé d'entretenir la cathédrale, la basilique, l'église Saint-Nicolas-Saint-Lomer, puisque ça a été construit avant. Non, je dis pas n'importe quoi, la basilique, elle a été construite en 1940 et quelques, donc pas celle-là. Ben, en tout cas, les lieux de culte de avant 1905, il y en a un en Vienne aussi. Oui, c'est ça. En Vienne, il y en a un. Et puis deux autres, là, à Blois, Saint-Lomer et puis la cathédrale. Effectivement, ce sont des lieux qui sont entretenus par la ville ou par l'État.
Moi, j'avais une question à vous poser par rapport... avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place, l'instabilité, est-ce que ça répercute sur vous ?
On a un peu évoqué ça tout à l'heure. Je disais qu'effectivement, les principaux problèmes, c'était les problèmes financiers, puisque la ville, les villes, c'est pas que Blois, hein, toutes les villes vivent avec des financements divers et variés, du financement qu'elle va générer elle-même parce qu'elle a, par exemple, des salles à louer pour des événements, ou bien elle reçoit de l'argent de l'État, etc., etc. Non seulement là, les subventions vont diminuer, mais on se retrouve avec un gros manque à gagner pour effectivement mieux faire fonctionner la ville. Donc notre principale inquiétude, c'est ça. Et puis c'est surtout qu'on a les informations toujours petit bout par petit bout et au dernier moment. Donc non, normalement on reçoit quelques infos, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui arrivent parfois par des annonces, ce qui fait que le budget normalement se boucle en décembre, mais là on n'est même pas sûr puisqu'on pour l'année 25, c'était bouclé en 24 et on a des annonces, on n'est pas encore tout à fait sûr. On en parlait encore hier soir en réunion. On attend encore des arbitrages de l'État et on risque encore de perdre. On n'est pas tout à fait sûr puisque les annonces se font pas tout à fait en temps et en heure comme nous, on voudrait pour pouvoir bien boucler notre budget. Donc c'est un peu ennuyeux, effectivement.
En tant qu'élu, après la retraite, est-ce que vous serez toujours élu ?
Alors effectivement, je vais bientôt être à la retraite de l'éducation nationale puisque j'arrive au bout de ma carrière d'enseignante. Ça fait 42 ans que j'enseigne. Donc après 42 ans de bons et loyaux services à l'éducation nationale, cet été, je serai à la retraite en tant qu'enseignante. Le mandat d'élu, il a commencé en 2020. Il dure 6 ans. Il va se terminer en mars 2026. Donc entre ma retraite là, très proche, et mars 2026, je vais continuer à être élue. Après, la question, c'est est-ce que je repars sur un autre mandat ? Alors déjà, c'est pas que ma propre décision, parce qu'il va falloir qu'on en discute avec le maire qui va construire sa nouvelle équipe. Soit il décidera de me ramener, soit il décidera de ne pas me ramener dans sa nouvelle équipe. Moi, je suis plutôt intéressée parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et donc j'ai très envie de continuer à travailler pour la ville de Blois, pour les habitants de la ville de Blois. Et puis ensuite, une fois que la liste elle est faite, si même le maire décide de continuer, est-ce qu'on va être élu ? Ça va dépendre des gens qui vont voter.
Il n'y a pas de limite d'âge ?
Non, il n'y a pas de limite d'âge pour les municipalités, pour les élections. Moi, si je le continue, là, vous voyez, je vais avoir 60 ans. Je me dis que si je repars sur un mandat, ça fera 66, ça me suffira.
Moustapha, 2027, c'est pour toi.
Une dernière petite question. Quels sont vos engagements en tant qu'élu ?
Alors, c'est assez large comme question. Je pense que mon engagement n'est pas que en tant qu'élu. Mon engagement, c'est un peu un principe de vie. Moi, je travaille avec des enfants tout petits depuis très longtemps. En plus d'avoir été enseignante, quand j'étais plus jeune, je me suis occupée d'enfants pendant l'été pour les emmener en centre de vacances. J'ai aussi fait de la formation, organisé de la formation pour les animateurs de centres de vacances, les directeurs de centres de vacances. Ensuite, j'ai piloté pas mal d'associations dans différentes directions. Ça pouvait être des associations culturelles, des associations sociales, des associations de défense du citoyen, des associations de défense des droits de l'homme. J'ai toujours eu un engagement extrêmement important. Et c'est tout ça, je pense, qui a conduit le maire à me proposer d'être auprès de lui.
C'est ce qui a fait votre parcours aujourd'hui, en fait.
Je pense que je suis construite comme ça. Quand j'étais gamine à l'école, j'étais la déléguée de classe. C'est pour vous dire que ça date...
Ce n'est pas d'hier, quoi.
C'est ça. Pas d'hier. Exactement.
Merci.
Je vous en prie. Merci à vous de votre accueil, en tout cas.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous encore d'être venu ici à Marcel Paul aujourd'hui. Nous étions avec Mustapha, Thomas, Lucas, Majid et Kylian et moi-même Dakna. Alors, nous remercions Madame Leclerc d'être venue aujourd'hui, de pouvoir parler de ce que le parcours de citoyenneté et de la laïcité, et surtout de son rôle au sein de la mairie. C'était très instructif pour nous, j'espère que ça l'a été pour vous. Dernière question que, j'aimerais vous poser, c'est juste pour le bien de notre public. Est-ce que vous aurez une musique en tête à vouloir faire passer ou...
Ah, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Est-ce que vous auriez des propositions à me faire? Parce que moi, j'ai pas du tout réfléchi à la question.
Un petit Goldman ou un petit Charles Aznavour ou...
Pourquoi pas, effectivement.
Un petit Vianney.
Un petit Charles Aznavour, ouais, ça pourrait être pas mal. Une
musique bretonne. Ouais, exactement. Totalement.
Je suis d'origine bretonne, effectivement.
Pour, pour rendre hommage aux parents.
Oui,
un petit Nolwenn Leroy, pourquoi pas.
Je vous laisse le choix des armes.
Ok. Les Merci. Gars, vous avez un titre en tête, non?
Belle île en mer.
Belle île en mer.
Très bien, c'est assez agréable ça.
Ça vous va?
Très bien. Merci. Allez, Laurent Voulzy.
Voulzy. Alors Laurent Voulzy, Belle île en mer.
Merci.
Souvenirs d'enfance en France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie Galant, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est l'an. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laisser tout seul en mer. Corsaire sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Voyez passer ces paris petits enfants, tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent.
Voilà, de retour sur Studio Zef, après avoir bien discuté, après avoir bien expliqué ce qu'on a fait durant ces 6 activités de parcours citoyen. J'aimerais poser une question à tous mes acolytes autour de la table sur toujours la citoyenneté et la laïcité. tiens, avec Majid, par exemple, si tu étais président.
Si j'étais président, je m'attaquerais.
Qu'est-ce que tu ferais, premier truc?
Si j'étais président, je m'attaquerais à la discrimination.
Discrimination?
Positive.
Ah, positive.
C'est-à-dire le droit des handicapés, les droits des étrangers, les droits des femmes, tout.
Donc on a les droits, les droits des femmes, c'est ça? Les droits, non, les droits des
discriminations.
Hamza, si tu étais président, la première mesure.
La première mesure, ça va être... moi, je trouve que les présidents actuels, depuis un certain temps, en fait, ils vivent pas notre situation comme famille ou comme citoyen français.
Et du coup, tu ferais quoi?
C'est que je vais m'approcher un petit peu des citoyens. Je vais sincèrement m'approcher des citoyens. Je vais essayer de m'approcher d'eux et de vivre un petit peu une journée à leur exemple pour savoir comment malheureusement en France aujourd'hui on souffre.
J'aurais une mesure pour toi. Déjà, tu baisses le salaire déjà. Ça serait bien. Déjà, baisser le salaire des présidents déjà. Enlever certains avantages pour qu'ils puissent un peu coller à la citoyenneté.
Non, ils vont payer l'essence, hein, vous inquiétez pas. Ils vont payer l'essence, ils vont payer les restos, tout ça. Là, je rigole. Non, mais je vais vraiment m'approcher des citoyens français pour un petit peu sentir la douleur que malheureusement nous sommes en train de vivre actuellement de tous les côtés. Et c'est pour ça les gens un petit peu ils perdent la foi, ils perdent la voix aussi, ils perdent connaissance dans ce pays-là et le pays devient fou. Et tout le monde y court derrière l'honneur malheureusement de l'argent et on perd de plus en plus. On se perd plus en plus soi que autre chose et du coup la première chose que je ferai c'est que je me mettrai à la place d'un simple citoyen qui voudrait vivre en France dans la paix, dans le respect comme on a dit respecter tout le monde, ça c'est déjà la base comme on dit et régler quelques malchances dans ce pays là ça sera tout pour moi, merci.
Yes. Monsieur le maire, Driss, ouais, pourquoi on t'appelle monsieur le maire déjà?
J'ai été élu par les citoyens pour la ville de Marcel Paul. Donc voilà, j'ai été élu.
C'était par rapport à l'activité de Cité Cap.
C'est ça.
C'est qu'on avait fait, on a dû créer une ville.
Ouais.
Et du coup, pour éviter d'avoir moins de problèmes, on t'a élu maire, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
C'est parfait. Du coup, que président, du coup.
Moi, président.
Parce qu'apparemment, maire, ça l'a pas fait.
Non, moi, président, j'aurais changé toute l'économie du pays. Enfin, parce que c'est pas normal qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit, qu'ils sont pas payés à leur juste valeur. Je sais pas si moi, je regarde sur les reportages, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression avec l'alcool, tout ça, les drogues et tout ça. Donc, il y en a de plus en plus en France. Et ça revient à les salaires, tout ça, les prises de tête, tout ça. Donc les gens, ils vivent pas...
Le train de vie.
Voilà quoi. Donc il faudrait revoir tout ça. Donc voilà, 1200 euros, c'est pas assez. Même s'il y en a jamais assez, c'est pas assez quoi.
T'es en retard là.
Ouais, c'est monté à 1300 le SMIC. Hein.
Ah, 1300. Bah voilà, ouais, mais de toute façon, 1300
euros... À 200 euros du seuil de pauvreté quand même. Ouais.
Donc voilà, ce que j'avais à dire, c'est l'économie, c'est vraiment important. Donc voilà.
Très
merci.
Bien. Monsieur Thomas.
Alors
Thomas,
moi, si j'étais président, ce serait lutter avant tout contre la précarité et donner à chacun de quoi vivre de manière décente. Voilà, pour faire court.
Moustapha.
Et pour terminer, moi...
Président Moustapha.
Si j'étais moi président, j'ai eu une idée merveilleuse dans ma tête. Ça fait longtemps que j'ai une idée. Moi, pour moi, la Terre, ce n'est qu'un seul pays pour moi. Moi, je ferai l'impossible pour éliminer les différences entre les différentes cultures et que tout le monde considère la Terre et nous appartient à nous. Éliminer même les frontières. Moi, je suis contre les frontières.
Ouais,
supprimer les différentes cultures,
je suis pas d'accord.
Respecter toutes les cultures.
Ah.
Hein, c'est la frontière. La frontière, parfois, c'est mentale. C'est pas une frontière physique. Tu sais, c'est ça, moi je considère la Terre citoyen du monde, je me considère. Moi,
si je serais président, ça serait très simple. Hein. Je mettrais toutes les finances pour la jeunesse, déjà d'une. C'est-à-dire plus d'éducation, enfin une meilleure éducation, des meilleurs enseignants, un peu plus de sport.
De formation aussi.
De formation aussi. Et ça ne sert à rien de, de les blinder de diplômes à droite à gauche, ça sert à rien du tout. Et ça serait plus pour dans l'optique de les aider à pas être de très bons employés, mais de très grands patrons, tout simplement. Donner les moyens à la jeunesse pour demain.
Les motiver aussi, ça revient à ça. Hein.
Justement, c'est motiver la jeunesse de demain, c'est pour le monde de demain, parce que nous, c'est bon, on est en plein dedans, là. Nous, ça y est, c'est passé, c'est trop tard.
Oui.
Donc, il faut penser à la prochaine génération, à nos enfants, à nos petits frères et tout ça. Et ouais, faire en sorte qu'à l'école, ils soient à l'aise pour apprendre dans de bonnes conditions, qu'ils puissent en même temps se dépenser dans le sport pour avoir plusieurs perspectives de réussir plus tard.
Ouais, leur donner envie, voilà. Quoi.
Et surtout, leur dire qu'on n'est pas fait pour être des employés, tu peux être un grand patron aussi. Voilà.
Parce que ouais, c'est ça, on nous apprend à être salarié, mais pas être employé.
Surtout, ouais. Après, bien sûr, hein. Si je suis président, par contre, c'est le bordel. Si je suis
excusez-moi,
je dis tout de suite.
Le rêve d'être président est terminé. Parce que c'est un rêve. On a un casier judiciaire, on ne peut pas être président.
Ça, c'est sûr.
Sur ce, c'était très intéressant. Merci à vous. C'est toujours Zonzon Zef sur Studio Zef 91.1 en direct de Marcel Paul. Avec bien sûr un grand merci au SPIP et à la Ligue des enseignants, des enseignements. C'est ça. Et à Isabelle et Thibaut qui est parti au soleil à Toulouse. Hein. Thibaut, grand bonjour à toi. Sur ce, à la prochaine et merci encore de nous avoir écoutés.
On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants. Beaulieusard est fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants. Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. C'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart. Et pour mes babdous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui nous retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat. Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore, je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système, je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non. Les yeux dans les bleus, mais les bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et l'une de nos problèmes. Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère. La violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes des...